Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Christina Silvero au micro pour vous présenter cette édition d'Escale à l'écoute de la planète. Cette semaine, nous nous rendons à l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires à Vienne pour prendre connaissance de son système de vérification qui permet d'être à l'écoute de notre planète. Système qui nous permettra par ailleurs de constater les bénéfices collatéraux de la lutte contre les armes nucléaires. Bonne écoute. Avez-vous déjà entendu le son de météorites qui pénétrait l'atmosphère ? Les chants de baleines sous l'eau ? Ou encore d'un tremblement de terre avant un tsunami ? Tous ces sons peuvent être détectés grâce au système de surveillance internationale du TICEN, le traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Ce traité, qui engage les pays l'ayant ratifié à ne pas mener d'essais nucléaires et qui est aujourd'hui signé par 183 pays et ratifié par 163 sans être pour autant entré en vigueur, est doté d'un système de vérification de conformité qui est chargé de détecter toute explosion nucléaire, atmosphérique, subaquatique ou terrestre. Il est composé de 330 stations et laboratoires à travers le globe qui sont à l'écoute de notre planète. Même si le traité n'est pas encore en vigueur, les stations sont à plus de 89% opérationnelles. Elles ont été construites et mises sur pied en l'espace de 10 ans. Patrick Grenard, conseiller spécial du secrétaire exécutif du TICEN, est au sein de l'organisation du traité depuis son tout début. Il a accompagné la mise en place des stations.
J'ai eu la chance de rejoindre l'organisation dans ses premiers jours, dans une époque que je qualifierais d'époque de pionnier, où tout était à construire. Début 1998, tout était à inventer. Comment approcher les étapes hautes des stations, mettre en place les procédures, comment faire des investigations sur le terrain pour identifier l'endroit où ces stations seraient construites, quelles étaient les technologies à utiliser pour construire des stations qui pourraient fonctionner dans la durée et répondre aux spécifications du traité. Donc il y avait vraiment une activité très importante ici à Vienne pour définir toutes ces approches, avec en même temps de nombreux voyages sur le terrain. On voyait des équipes ici partir de Vienne partout, prendre l'avion tout le temps, aller sur terrain, revenir avec des photos, certains faisant des opérations d'inspection sur place à dos d'âne ou de mulet, d'autres embarquant sur des navires, d'autres dans des véhicules tout terrain. Donc il y avait vraiment une activité très très importante au début de cette organisation pour mettre en place les bases du système de surveillance internationale.
La construction et la gestion des stations posent des défis importants dont se charge l'organisation du traité. Nathalie Broly est la chef de la section d'appui aux installations du système international de surveillance du TICEN.
C'est beaucoup plus facile d'aller voir une station qui est dans le milieu d'une ville, facile d'accès et tout, versus une autre station qui peut-être est en Antarctique ou qui est en plein milieu de l'océan ou dans la jungle. Donc, le côté géographique puis accès à la station nous apporte un premier défi. Ensuite, il y a le côté technique de s'assurer que même une station qui a été construite en 1997 est aussi bonne qu'une station qui sera construite dans 10 ans. Alors, il faut vraiment avoir un bon programme de suivi de technologie pour s'assurer que si l'équipement devient obsolète, on a un plan pour pouvoir le remplacer avant qu'il soit brisé, parce qu'une des spécifications que le traité demande, c'est que ces stations doivent être en opération et envoyer des données 98% du temps. Si on amène ça sur un calendrier, il n'y a aucune station qui est opérationnelle qui peut tomber en panne plus que 7 jours dans une année. Alors, le côté prédiction, modélisation, regarder l'âge de l'équipement, la performance de l'équipement, va nous amener à être capable de déterminer avant que la station tombe en panne, il faudrait peut-être leur envoyer une pièce de rechange, un équipement de rechange, envoyer une équipe sur le terrain. Alors, tout ce côté-là est aussi un défi. Finalement, il y a aussi le côté humain qui est un défi. Le traité et le succès du traité dépend beaucoup des personnes, de la connaissance des personnes et de s'assurer que cette connaissance-là, elle est soutenue, tant au niveau du secrétariat qu'au niveau de la station, parce que chaque station a aussi un opérateur de station nommé par le pays hôte. Alors, nous, notre défi et notre boulot ici au secrétariat, c'est de s'assurer que cet opérateur-là continue à avoir la connaissance nécessaire pour pouvoir opérer et maintenir la station, qu'il y a les outils nécessaires, qu'il y a l'équipement nécessaire, qu'il y a les procédures nécessaires. C'est un travail d'équipe entre le secrétariat et l'opérateur de station.
Les stations recouvrent en effet l'ensemble de la planète d'après les sites établis par l'annexe 1 du traité et se trouvent souvent dans les pays en développement ou dans les endroits les plus reculés du globe. Afin d'éviter qu'elles ne pèsent sur des économies à faible revenu, leur construction est prise en charge par le traité. Leur entretien et gestion revient cependant aux pays hôtes. Ces stations ont en fait un impact économique sur les communautés qui les accueillent. Des dispositions ont été prises pour assurer que celui-ci soit avantageux. Patrick Grenard.
Je vais prendre l'exemple d'une des stations du système de surveillance international dans un endroit, je pense, le plus reculé de la planète. Je vais prendre l'exemple de Tristan da Cunha, qui est une île au sud de l'océan Atlantique. C'est l'endroit où la population est le plus isolée sur Terre, parce qu'il faut au moins 5 jours de bateau de l'Afrique du Sud pour y aller, parce qu'elle est à mi-chemin entre l'Afrique du Sud et l'Amérique du Sud. Et il a fallu donc installer 3 stations, une station radionucléide, une station hydroacoustique et une station infrason sur cette île perdue. Et la question majeure qui s'est posée, c'est effectivement comment installer ces stations sur une île où l'espace est limité, parce qu'il s'agit d'un volcan qui sort en fait de la mer, et l'espace disponible pour les cultures vivrières sur l'île ou pour la population qui est peu nombreuse en fait est très très limité. Donc il a fallu expliquer à la population locale comment intégrer ces stations, comment intégrer la population. Et la première question qui s'est posée pour eux, c'était que nous avions besoin d'énergie 24 heures sur 24. Le village n'avait d'énergie que pendant 12 heures. Donc il a fallu que l'on se mette d'accord sur la remise à niveau du générateur électrique de l'île pour pouvoir fournir de l'énergie. Mais finalement, à la fin, la communauté locale a pu bénéficier d'énergie 24 heures sur 24 avec l'installation de ces stations.
Il en va de même pour les pays en développement. Nathalie Broly.
Des fois, on peut peut-être se demander pourquoi qu'on a une station dans notre pays. On a, une station dans notre pays parce que elle fait partie du système de surveillance internationale. On a besoin de cette station-là. Il y a le côté sécurité du globe, mais il y a aussi le côté de regarder les opportunités. Souvent, les États membres vont peut-être nommer un opérateur de station qui, par exemple, est une université. Si je prends le Gabon, c'est l'université de Massoukou qui est l'opérateur de station. Et l'université devrait prendre ça comme une opportunité, parce que c'est une opportunité que son opérateur, qui est un employé de l'université, peut venir à plein de formations pour apprendre à comment opérer et réparer l'équipement. Il faut regarder comme une opportunité le fait que vous ayez une station dans votre pays, parce qu'on peut continuer à vous entraîner et à augmenter la capacité dans votre pays.
Pierrick Mial est officier scientifique à l'acoustique à l'organisation du TISEN ou OTIS. Il revient sur les technologies infrasons qui ont pour objectif de détecter les explosions nucléaires dans l'atmosphère.
Les infrasons, ce sont des ondes acoustiques qui se propagent dans l'atmosphère, qui ne sont pas audibles pour l'homme parce qu'elles sont de trop grandes dimensions par rapport à la taille de l'humain. Par contre, ce sont des ondes acoustiques qui se propagent sur des très grandes distances et que l'on peut enregistrer à des milliers de kilomètres. Et notamment, quand une explosion se place dans un pays, on peut l'enregistrer à des très grandes distances. Le renouveau des infrasons s'est fait avec la signature du traité dans les années 90. Donc, c'est vraiment une technologie très récente où le CTBTO, donc l'OTIS, est vraiment à l'avant-garde de la recherche et du développement sur ces technologies.
Alors, comment cette technologie s'intègre dans le système de surveillance de l'OTIS?
Alors en fait, on a besoin de la technologie infrason parce que l'OTIS est censé détecter des essais nucléaires dans toutes les composantes de la géosphère, donc que ce soit sous-marin, souterrain ou dans l'atmosphère. Et les infrasons sont la technologie qui est utilisée pour les détections pour des essais nucléaires atmosphériques.
Alors comment faites-vous pour constater la différence entre un ouragan, un météore, une explosion?
Alors c'est ça, c'est tout le challenge de ce qu'on fait, c'est que toutes ces sources ont des signatures très différentes que lorsqu'on est très proche de la source. En revanche, lorsque les ondes se propagent dans l'atmosphère sur des très grandes distances, elles ont tendance à se ressembler. Donc tout le challenge de notre travail ici au Centre international de données, c'est que lorsqu'on reçoit ces données brutes des stations, après on les traite, et dans ces traitements, on obtient un certain nombre de paramètres spécifiques qui nous donnent la durée du signal, par exemple, son contenu fréquentiel, spectral, certaines amplitudes, et aussi des informations sur la taille de la source qui nous permettent après de remonter jusqu'à quel type de source elle pourrait être. Ça nous permet de discriminer entre, par exemple, de l'activité de la mer ou un ouragan qui se propage au travers de l'océan ou une météorite qui s'éteint à une vitesse supersonique dans l'atmosphère en relâchant énormément d'énergie.
Est-ce que vous pouvez nous décrire, prendre deux sons et nous faire le contraste entre un son et l'autre?
Alors, ce premier son, c'est la météorite de Chelyabinsk. Qui a explosé au-dessus de la Russie le 15 février 2013. C'est l'événement le plus important pour la technologie infrason depuis que l'OTIS est en place, étant donné que c'est le plus gros événement qu'on ait jamais enregistré. Il y a eu presque 500 kilotonnes d'énergie relâchées dans l'atmosphère. C'est une très très grosse explosion qui a été détectée au Kazakhstan, à quelques centaines de kilomètres, mais également à l'autre bout de la Terre, sur quasiment toutes les stations du réseau, en tout cas la moitié des stations du réseau infrason. Donc c'est une source très importante, très énergétique, qui se déplace rapidement, donc qui nous a permis d'avoir cette signature très spécifique. Au contraire de cette seconde source qui est donc une éruption volcanique du Kazatoshi au Japon et qui est une éruption assez longue avec un contenu de spectral qui est très spécifique à une éruption volcanique où le début de l'éruption est très très importante, ce qui est très énergétique, puis on voit qu'il y a un espèce de relâchement de l'énergie et c'est cette signature qui nous permet vraiment de différencier ces deux types de signaux.
Alors au quotidien, comment est-ce que vous faites pour justement surveiller les données qui arrivent du terrain et comment est-ce que l'OTIS réagit par rapport aux différentes données?
Alors comme vous le savez, il y a un certain nombre de stations qui sont installées partout dans le monde. Toutes ces stations nous envoient donc les données ici à Vienne. Les données sont reçues au Centre international de données via un réseau de communication global. Et une fois qu'elles arrivent, on les considère comme données brutes. Donc elles rentrent dans notre pipeline opérationnel. Donc c'est un endroit où automatiquement un certain nombre de méthodes, d'algorithmes ou de logiciels les ingèrent et après les digèrent de manière à nous créer un certain nombre d'informations sous forme de bulletins. Donc que la revue humaine soit possible. Donc après, on a des bulletins station par station et on a aussi des bulletins qui nous permettent de mettre ensemble tous ces événements et de recomposer un petit peu l'origine de ces sources. Donc c'est ces méthodes qui sont vraiment importantes de manière à pouvoir nous focaliser sur ce qui est très important pour nous garantir qu'on n'aura qu'une explosion potentielle qui ait lieu dans l'atmosphère.
Alors, ce système de surveillance de l'OTIS a acquis une application plus large au-delà de la vérification des explosions nucléaires, avec notamment des applications civiles et scientifiques. Alors, au niveau de l'infrason, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples?
Alors, pour les infrasons, c'est quelque chose qui est, à mon avis, très important parce que c'est quelque chose qu'on observe très régulièrement. Chaque semaine, nous avons des éruptions volcaniques et donc les données infrasons sont très intéressantes à ce niveau-là parce qu'avec un nombre limité de stations, on peut surveiller globalement des éruptions volcaniques de taille moyenne. Et c'est quelque chose qui est fait de manière continue et ça nous permet de travailler avec d'autres organisations qui, eux, sont en charge de l'alerte pour l'aviation civile lorsque des cendres sont dans l'atmosphère. Et donc, ce qui les intéresse et la grosse difficulté qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas l'information de la source, à quel moment une source, donc un volcan, est actif, pour quelle durée, avec quelle intensité. Et c'est ce genre d'informations dont ils ont besoin pour pouvoir, après, eux, utiliser leur méthode de propagation des cendres dans l'atmosphère. Il y a aussi un gros intérêt depuis l'entrée du météorite de Chelyabinsk dans l'atmosphère. Il y a un nouveau intérêt de la communauté qui travaille sur les objets s'approchant de la Terre pour regarder un petit peu les données infrasons, étant donné qu'on observe un grand nombre de météorites entrant dans l'atmosphère. Et c'est quelque chose qui est très intéressant pour cette communauté, étant donné qu'ils cherchent à comprendre combien de météorites entrent dans l'atmosphère chaque année, de manière à pouvoir prévoir un petit peu quand auront lieu les prochaines météorites, étant donné que ça peut avoir un impact sur les dommages aux populations et donc se préparer pour le futur.
La pérennité du système de surveillance est quasiment acquise. La communauté internationale y a déjà investi plus $1 milliard et l'entrée en vigueur du traité permettra de constater l'engagement juridique des États pour entretenir et développer ce système. Le système a fait ses preuves de vérification, mais aussi de bénéfices collatéraux. Ses applications civiles et scientifiques ne cessent de s'accroître. Lassina Zerbo, secrétaire exécutif de l'organisation du traité.
Je pense que avec les applications civiles et scientifiques que nous voyons, cette organisation sera forcément appelée à jouer un rôle beaucoup plus capital dans les changements climatiques, les problèmes environnementaux, les problèmes de détection au niveau d'anomalies de bruit ou d'explosions qui se passent à travers la planète et dont la communauté internationale peut avoir besoin d'explications et donc montrer à la communauté internationale que ce qu'ils investissent, ils ont un retour en investissement qui peut être assez consistant. We'll be right back.
Et c'est ainsi que se referme cette édition d'Escale à l'écoute de la planète, consacrée cette semaine au système de surveillance internationale du TISEN, dont l'application scientifique et civile démontre les bénéfices collatéraux de la lutte contre les armes nucléaires. Escale, le magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies, vous a été présenté par Christina Silvero avec la collaboration de Florence Westgaard et de Carlos Macias. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.